Les États-Unis et Israël sont entrés dans leur troisième semaine de guerre ouverte contre l'Iran et la situation ne montre aucun signe d'apaisement. Au contraire, les sept derniers jours ont marqué une escalade dramatique sur plusieurs fronts. D'abord, la succession au sommet du pouvoir, après l'assassinat d'Ali Khamenei dès le premier jour du conflit, son fils Mojtaba Khamenei a été officiellement désigné guide suprême le 8 mars dernier. Il a fait lire son premier message public avec un ton inflexible, indiquant qu'il serait maintenu à la fermeture du détroit d'Ormuz comme outil de pression, que les attaques contre les bases américaines se poursuivraient dans la région tant qu'elles ne seraient pas fermées. Une déclaration qui a été lue à la télévision d'État et sans apparition physique du nouveau guide, dont on se demande d'ailleurs dans quel état il est réellement. Sur le terrain, les échanges de frappes n'ont pas faibli. Israël a de nouveau visé Téhéran et plusieurs sites pétroliers iraniens ces derniers jours, touchant notamment des dépôts de carburant près de la capitale ainsi qu'une usine de dessalement sur l'île de Keshm. En représailles, l'Iran a intensifié ses attaques sur les pays du Golfe, raffineries, aéroports, usines de dessalement, infrastructures électriques au Koweït, à Bahreïn, aux Émirats, au Qatar. Des pétroliers et un cargo ont été touchés dans le détroit d'Ormuz et jusqu'aux eaux irakiennes. Le bilan a été très lourd côté iranien, plus de 1400 morts et 18500 blessés recensés par le ministère de la Santé à Téhéran depuis le 28 février. Côté israélien, une nouvelle salve de missiles a fait des dizaines de blessés dans le nord du pays ce matin. Par ailleurs, les affrontements et les bombardements au Liban se poursuivent. Conséquence immédiate de tout cela sur l'économie mondiale, le blocage quasi total du détroit d'Ormuz, par où transite habituellement 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondial, fait flamber les cours. Le baril a dépassé les $100 à plusieurs reprises cette semaine et encore ce soir, malgré les réserves stratégiques débloquées. Donald Trump a prévenu hier, les États-Unis frapperont très fort au cours de la semaine qui vient. Téhéran promet de son côté un désastre régional en cas d'escalade supplémentaires sur les infrastructures énergétiques ou électriques. En Irak, une frappe a touché des Français et tué un de nos soldats, l'adjudant-chef Frion, honneur à lui, alors que la flotte française est mobilisée et se rend sur la région pour des manœuvres dites défensives. La France va-t-elle être entraînée dans le conflit et jusqu'où celui-ci va-t-il s'étendre ? Bonsoir, je suis Philippe Fabry. Nous sommes le 13 mars 2026, il est 21h39. Désolé pour le petit retard. Mais cette fois-ci, tout marche bien. Nous sommes ce soir partis pour faire le live hebdomadaire, donc qui sera suivi du live privé des abonnés dans lequel je répondrai à toutes vos questions. En revanche, il y aura aussi un live qui, celui-là, sera un live spécial dimanche soir pour faire le point sur le premier tour des élections municipales. Voilà, j'en ai parlé sur... sur X, et... non, je vais pas remettre le générique, on va pas tout repartir depuis le début, je vais pas vous faire paroter, c'est pas grave. Je couperai, et puis vous aurez tout d'affilée. Donc voilà, donc du coup, il y aura deux émissions cette semaine. Je vous retrouverai dans deux jours, parce que, comme je vous l'ai dit, je pense que les municipales vont être un moment important. Donc, c'est important de revenir dessus. En même temps, je peux pas faire l'économie de faire la suite de cette guerre qui continue à se déployer et qui mobilise énormément les chaînes info. Voilà. Vous avez aussi, tant que j'y suis, ma conférence que j'ai donnée à l'Institut catholique de Vendée qui a été mise en ligne. J'ai fait un petit post dessus sur la chaîne pour envoyer. Je pense que ça sera republié aussi bientôt sur la chaîne, mais si vous êtes pressé, vous pouvez aller la voir. C'est une conférence originale qui reprend un certain nombre de choses que je dis dans L6Arts, mais qui les dit d'une autre façon. Donc je pense que ça peut être intéressant et que pour le coup, même les habitués de la chaîne n'ont pas forcément ce que j'ai dit en tête. Et dernière chose, avant de commencer, n'hésitez pas à mettre vos plus beaux pouces sous la vidéo, comme ça sera fait, mais je n'hésiterai pas à vous le rappeler un petit peu plus tard. Alors, ce soir, donc, on va parler un petit peu de tout ce qui concerne cette situation et essayer de faire le point surtout sur la manière dont elle va évoluer, dont elle commence d'ores et déjà à évoluer. La première remarque que je voudrais faire, et je pense qu'on va en parler quand même un petit peu, c'est... alors, je me suis habitué dans la semaine, tout en travaillant, à mettre des chaînes d'info en continu, en arrière-plan, pour pas échapper à une actualité, même si, en fait, rien ne m'a échappé. Je veux dire, en allant checker de temps en temps le télégramme de la chaîne, je suis plus tombé... J'étais mieux tenu au courant qu'en écoutant les chaînes d'info. Mais ce qui m'a frappé particulièrement, c'est cette espèce de joie malsaine qui se déploie sur les plateaux de télévision à l'idée que les États-Unis puissent être en difficulté. Il y a vraiment, on sent, une détestation de Trump qui se déploie, mais je vais aller encore plus loin que ça. Parce que j'ai écouté 5 minutes, comme vous me l'avez mis sur le Telegram. J'ai écouté 5 minutes la fin de l'émission qu'a fait Idriss Aberkane avec Pierre-Yves Rougeron. Alors, c'est assez amusant parce que c'est une émission qui était consacrée à la question de savoir si c'était la fin de MAGA. Et j'ai vu qu'il avait été, question de ça un petit peu dans leur émission. En tout cas, c'est ce dont Rougeron parlait au moment de fermer. Et alors, je vais essayer de vous l'afficher. Est-ce que je peux vous aller vous le chercher comme ça? Est-ce que je l'ai ouvert celui-ci? Il est ouvert normalement, donc je dois pouvoir l'afficher. Ouais, peut-être c'est peut-être celui-là. Non. Je vais essayer de vous afficher le. Mais bon, si ça veut pas, ça veut pas. De toute façon, ça marche une fois sur deux, ce truc. Ah là. Voilà, c'est bon. Ce sondage qui, selon moi, répond à la question, en fait, et ce qui est très intéressant, donc, c'est que dans cette émission-là, ils avaient l'air de partir sur cette idée, effectivement, que c'était peut-être la fin de MAGA. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le sujet de cette émission, donc, est-ce que c'est la fin de MAGA, en insistant, parce que vraisemblablement, ils prenaient le parti des gens qui sont contre la guerre aux États-Unis. En expliquant qu'effectivement c'était la fin de MAGA quelque part, du coup, que Trump trahissait tout ça et tout. Et ce que j'ai trouvé intéressant, donc, c'est que cette émission sur une chaîne qui fait partie des chaînes, on va dire, très dissidentes, hein, en France, hein, la chaîne d'Aberkane avec Rougeron dessus, on est quand même déjà sur pas de la dissidence violente, mais enfin sur de la dissidence intellectuelle, en tout cas par rapport à ce qui se dit sur les grands médias, hein, ce sont des gens qui critiquent énormément les médias, en reprenant l'expression de Moreau des médias je crois que c'est Slobodan Despot, les médias de grand chemin, mais Moreau l'emploie beaucoup, donc c'est devenu leur expression, et donc j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de m'apercevoir que ces gens, que je retrouvais exactement le même climat en fait, intellectuel, et le même préjugé d'une certaine manière, sur cette chaîne, que exactement ce que j'ai entendu toute la semaine sur BFM TV, quoi. Je trouve ça hallucinant, surtout quand je pense à tous les gens qui me disent « Ah, va sur BFM TV », c'est pas moi qui dois aller sur BFM TV, parce que clairement, pour le coup, vous n'entendrez pas ce que vous entendez sur BFM TV ce soir ici, alors qu'on le trouve y compris chez les dissidents maintenant. Et que dans les deux cas, c'est une grosse ânerie, puisque les Américains ont publié eux-mêmes des sondages, en plus c'est des sondages qui ont deux jours. Donc bon, je vais pas la ramener, parce qu'en fait, moi je l'ai vu aujourd'hui, parce que quelqu'un l'a aimablement publié dans le Telegram, et je suis allé rechercher la source, effectivement c'était il y a deux jours. Et je ne comprends pas que ça n'ait pas été plus diffusé chez nous, personne n'y a prêté attention, alors que c'est des sondages NBC, CNN, YouGov, quoi, c'est pas n'importe quoi, hein, franchement. Et vous apercevez qu'en fait, les MAGA, ils sont à fond dans l'approbation de la guerre, quoi. Alors, ils sont pas à 100%, naturellement, mais ça arrive jamais. Mais quand vous êtes à 80, entre le minimum c'est 85, et entre 85 et 90% d'approbation de la guerre, vous pouvez pas dire qu'il y a une fracture au sein de MAGA. C'est pas vrai. Vous avez une frange, en réalité, qui est la frange la plus radicale, vraisemblablement. Et il est vrai, disons-le, qu'une bonne partie des figures médiatiques, et par médiatique, j'entends médiatique sur les réseaux sociaux, puisque c'est surtout là-dessus que ça s'est construit, de la droite MAGA, Tucker Carlson notamment, il y a Steve Bannon aussi, peut-être sans doute d'autres, eux sont extrêmement hostiles à ça. Souvent d'ailleurs, ce sont des gens qui sont également hostiles à Israël, parce que par ailleurs, en général, ils sont antisémites, hein, faut dire ce qui est. Pas tous les gens qui sont hostiles à Israël ne sont pas forcément antisémites, mais en l'occurrence, oui, quand vous les écoutez. Et parce que pour aller dire que en fait dans cette guerre Trump ne fait que poursuivre les intérêts d'Israël, je vais peut-être revenir dans un instant, mais faut quand même être bien à côté de la plaque. Ça me rappelle les gens qui expliquaient aussi que s'il y avait une révolution en Syrie, c'était à cause d'un oléoduc qui devait passer depuis le Qatar, et que voilà, ce genre de choses, ce genre de sottises. Mais j'ai dû subir ce genre d'explication pendant très longtemps. Et donc ce que je trouve intéressant, c'est que à la fois les médias mainstream pour le coup et cette dissidence là. Donc dissidence habituellement pro-russe, hein. Ce qui montre d'ailleurs qu'ils sont d'accord sur l'hostilité à la guerre. Ce qui montre d'ailleurs, mais bon, du coup, les médias mainstream devraient le reconnaître aussi, ce qui montre d'ailleurs que les pro-russes ont tout à fait identifié à quel point la guerre de Trump en Iran est défavorable aux intérêts de la Russie. Ce qui est, même si par ailleurs ils nous expliquent que Poutine est le grand gagnant de la guerre en Iran, hein, puisque Poutine est toujours le grand gagnant de tout. Hein. Vous savez que Poutine, quand on lui impose des sanctions, ça lui profite. quand on lui le bombarde, ça lui profite aussi. Enfin, tout profite à Poutine dans ce récit-là. Même pas mal. Mais donc, eux, ils se rendent bien compte que l'attaque sur l'Iran, c'est effectivement négatif pour les intérêts du bloc, en fait. Eh bien, n'empêche que, quand vous regardez, vous apercevez qu'en fait, ces gens ne pèsent pas grand-chose. Même Tucker Carlson, même Steve Bannon, mais bon, Tucker Carlson, c'est quand même le plus important, en réalité, ne sont pas des faiseurs d'opinion. Et les réseaux sociaux, pour une bonne partie, d'ailleurs, et en général, sont beaucoup moins... ont un rôle beaucoup moins causal, ou un rôle causal beaucoup moins important que ce qu'on leur a souvent attribué. Parce que la réalité, c'est que l'essentiel des magas, c'est pas des gens qui vont sans arrêt écouter Tucker Carlson ou aller débattre sur Twitter X, c'est pas ça. C'est des gens qui travaillent, qui bossent dans l'Amérique profonde, ou moins profonde, et qui sont favorables à Trump parce qu'ils sont hostiles à un certain nombre de politiques, mais qui restent attachés à un certain nombre de standards américains, et surtout qui collent avec ce qu'est profondément le trumpisme et ce qu'est le Make America Great Again. Et qu'est-ce que c'est profondément Make America Great Again? Ben, je vous l'ai dit depuis des années maintenant, Make America Great Again, c'est, ce n'est pas du tout un isolationnisme, ce n'est pas du tout renoncer à l'Empire américain. C'est décider que l'Empire américain ne doit pas profiter uniquement aux élites américaines, voire à l'establishment étendu d'Occident au détriment du peuple américain, mais doit profiter au peuple américain, parce que c'est grâce à lui que cet empire existe. Et donc, c'est tout à fait logique que les magas soient favorables à aller taper sur l'Iran comme à aller taper sur le Venezuela, en particulier quand vous voyez comment c'est présenté par Donald Trump, qui est, en gros, on va aller prendre le pétrole. La population américaine, en fait, n'a pas de mal à aller prendre le pétrole chez les gens, les voisins. Ce qui gênait la population américaine pendant longtemps, c'est le fait que des grandes compagnies pétrolières américaines utilisent... et les élites qui gravitaient autour, utilisent... Enfin, tout ça étant quand même en soi de la caricature, hein, mais de la façon dont ça fonctionne, on va dire, psychologiquement, l'histoire des idées. C'est que ces élites-là donc utilisent le sang du peuple américain et l'argent du peuple américain à travers les taxes, à travers l'armée, etc., pour aller gagner des contrats du profit et saisir le pétrole pour de grands intérêts. Si, comme Trump le prétend en tout cas, et essaie de le vendre tout le temps... Tous ces efforts doivent servir le peuple américain directement et l'intérêt doit être servi au profit du peuple américain. Et encore une fois, que ce soit la réalité fondamentale ou pas, ça, on verra au fil du temps. Mais dans le narratif, c'est la façon dont il le présente. Ce qui n'est pas le cas avant, dans les guerres extérieures comme ça. On le présentait sous des questions morales, sous le fait qu'il y avait un danger, etc. Mais le côté prédateur assumé, il n'y était pas. Avec Trump, il y a un peu plus. Et on lui reproche d'ailleurs souvent en Europe, alors que c'est même pas forcément le truc déterminant. En réalité, il s'agit beaucoup plus fondamentalement de la poursuite de ce qui sont les intérêts permanents, les invariants, si vous voulez, de la diplomatie américaine et de la grande stratégie américaine de domination mondiale, plutôt que, effectivement, c'est d'ailleurs pour ça que Trump fait les mêmes choses. Mais il explique qu'il les fait pour d'autres raisons. En réalité, il les fait toujours pour les mêmes raisons, qui n'étaient pas forcément d'ailleurs les raisons que croyaient les gens qui les critiquaient avant. Hein, quand ils disaient que c'était juste pour aller chercher du pétrole, pas forcément. Ou en tout cas, c'était pas en soi un but avare d'aller chercher du pétrole juste pour avoir de l'argent. C'était aussi pour avoir des positions de pouvoir, parce qu'encore une fois, les États ont des intérêts, et que l'intérêt d'une thalassocratie, c'est de détenir un certain nombre de points d'appui, de goulets d'étranglement, etc. Et pour les Américains, le fait qu'un détroit comme le détroit d'Ormuz, par exemple, soit aux mains de quelqu'un d'autre que d'eux, en soi, c'est problématique. Alors pendant longtemps, ils l'ont laissé faire parce que bon, il y avait pas de menace directe, mais le fait est que si l'Iran se rapprochait à la fois d'une expansion de ses missiles balistiques, du nucléaire, il était capable de contrôler totalement le détroit d'Ormuz. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Donald Trump dès 2016-2017, par là, quand il expliquait un jour l'Iran sera nucléaire et ils bloqueront le détroit d'Ormuz, le pétrole sera à $300 et on ne pourra rien faire parce que l'Iran sera un état nucléaire. Donc, croire que Donald Trump a découvert l'existence de l'Iran et des problèmes que pose l'Iran hier, ou qu'il n'avait pas entendu parler du détroit d'Ormuz il y a 15 jours, ça, c'est des conneries. D'accord ? Et le fait que, encore une fois, vous ayez la dissidence, entre guillemets, et les médias mainstream chez nous qui convergent dans une espèce de considération que Trump, du fait de son attaque en Iran, est un grand débile et que les Américains sont foutus, Je trouve ça intéressant. Je suis pas sûr de savoir exactement ce que ça veut dire. Enfin, si, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'une partie des pro-Trump, en tout cas une minorité des gens qui sont pro-Trump, et qui sont les pro-Trump pro-Poutine, hein, qui sont une partie des pro-Trump seulement, à choisir dans les circonstances actuelles, préfèrent choisir Poutine que Trump. Et donc, ils choisiront l'Iran plutôt que Trump, naturellement. Donc, c'est ça qu'ils font. Et de l'autre côté, dans les grands médias, c'est la détestation de Donald Trump, parce que, vraisemblablement, si ça avait été Joe Biden qui avait bombardé l'Iran pour une raison ou pour une autre, notamment sur des motifs humanitaires, parce qu'il venait de mener cette répression, etc., ils auraient trouvé ça tout à fait normal. Bon, mais si vous écoutez les experts de plateau, ils sont déjà... L'important, c'est le discours admis de base. Ça reste que Trump est un imbécile, et donc ça devient... J'ai vu, je sais plus qui... Qui peut venir expliquer que Pete Hegseth avait des tatouages, donc apparemment ça discréditait Pete Hegseth somehow. Et les types viennent aussi expliquer que il n'y a pas véritablement de rationalité, autant de rationalité qu'on attendrait chez les Américains, la preuve à cause de leur séance de prière là, dans le bureau ovale. Comme si véritablement, enfin je ne sais pas s'il y a véritablement des gens qui croient que quand Donald Trump prie comme ça au milieu des fanatiques religieux qui existent, hein, aux États-Unis, il est vraiment gouverné par une vision millénariste. C'est pas son cas. Il sait qu'il y a une partie de son électorat dont c'est le cas, et ça fait longtemps. C'est le même électorat qui soutenait George Bush. Mais Donald Trump, enfin, je veux dire, n'importe qui sait que c'est pas un type qui est particulièrement religieux. Enfin, c'est du cinéma qu'il fait quand il fait ça. C'est évident. Donc elle a expliqué que l'administration de Trump a géré par une sorte de mysticisme, c'est quand même assez délirant. Donc voilà, déjà première chose sur cette question de la rupture de l'Amérique MAGA, non. La rupture des républicains, même pas, parce que vous voyez les républicains, très largement, les républicains ralliés à MAGA, bon ben ils sont pas au niveau de MAGA, mais enfin, c'est des gens qui ont toujours pensé en fait qu'il fallait bombarder l'Iran. Et même chez les républicains non MAGA, on est entre 55 et 63%, donc c'est quand même élevé. Voilà. Le problème, c'est surtout les indépendants et les démocrates, naturellement, qui sont hostiles. Mais là encore, forcément, quand vous allez interviewer dans la rue une démocrate, comme j'ai vu tout à l'heure sur BFM TV en lui demandant qu'est-ce qu'elle pense de la guerre, il faudrait être fou. Alors elle vous explique que c'est à cause du prix de l'essence, mais vous comprenez bien que c'est pas le prix de l'essence qui lui pose problème. Le problème, c'est que c'est Trump. Donc tout ça est quand même assez délirant, et je me demande, alors vous savez que je prends pas le temps de lire le chat en même temps que je parle, parce que sinon je m'interromprais trop souvent. Je me demande s'il y aura la même guerre dans le chat qu'il y a eu la semaine dernière, pour ces raisons-là, parce que c'était très très engagé sur la question. Mais ça fait partie effectivement de la discussion, quoi, de savoir pourquoi Donald Trump a fait ça. Alors bon, moi je vous ai déjà expliqué pourquoi Donald Trump a fait ça. Pourquoi c'était pas juste pour complaire aux Israéliens. Naturellement, c'est coordonné avec les Israéliens, parce que les Israéliens ont des intérêts convergents avec les États-Unis. Mais jusqu'ici, Donald Trump a montré qu'il savait utiliser la convergence avec Israël sur un certain nombre de problèmes, mais il savait aussi s'asseoir sur les intérêts directs d'Israël quand il voulait autre chose. Quand il a mis un terme à la guerre des 12 jours, c'était pas précisément ce que voulaient les Israéliens. S'il est revenu dessus, c'est aussi pour un certain nombre de problèmes, et notamment que, bah, je vous l'ai déjà expliqué, il y a la guerre qui se profile contre le reste du bloc, de toute façon. L'Iran, c'est le bas-ventre mou. C'est le truc qui n'a pas encore d'armes nucléaires. C'est le seul qui n'a pas d'armes nucléaires, l'Iran. La Corée du Nord a des armes nucléaires, la Chine a des armes nucléaires, la Russie a des armes nucléaires. Donc si vous vouliez en taper un, il fallait taper l'Iran. Et il fallait taper l'Iran avant qu'il ait la moindre arme nucléaire. Donc ça vous explique le choix de Trump. Il n'y a pas besoin d'aller chercher autre chose. Et en plus, il y avait une autre urgence qui était qu'il fallait contrôler le détroit d'Ormuz ou assurer sa sécurité en tout cas, avant que les Chinois éventuellement décident d'agir contre Taïwan. Et donc forcément, tout ceci pressait un petit peu. Et encore une fois, je le répète, les Américains ont une conscience de l'imminence de la guerre, ou de l'imminence de la confrontation. Et donc ils veulent, sinon la prévenir, du coup se mettre en bonne position. Donc augmentation du budget militaire, et cette action qui a pris d'une certaine manière les gens de court, mais qui a pour but, effectivement, de contrôler ce passage stratégique qui est le détroit d'Ormuz. Alors précisément le détroit d'Ormuz, justement, il y a un gros risque aujourd'hui. Il y a ce gros risque, c'est ce dont on a parlé toute la semaine, c'est un petit peu l'actualité de la semaine, on va dire, de fond, ça, c'est est-ce que le détroit d'Ormuz est véritablement bloqué ? Alors la semaine dernière, c'était plutôt des questions d'assurance qui bloquaient le détroit d'Ormuz, mais cette semaine, les Iraniens ont effectivement frappé des bâtiments qui traversaient le détroit, donc ils ont, c'est une volonté de le fermer directement, et en plus ils auraient commencé à poser des mines pour le bloquer. Excusez-moi, ça relance ce truc, désolé, je sais pas comment il faut que je fasse pour que quand je bascule d'une scène à l'autre, ça balance pas ça. Mais c'est l'occasion de vous rappeler, si ça vous a réveillé parce que vous étiez en train de vous endormir, qu'il faut pas hésiter à mettre des pouces, hein. C'est extrêmement important pour le dynamisme de la chaîne et que l'algorithme propose l'émission à des gens qui sont de passage. Alors attendez, qu'est-ce que je voulais aller chercher ? Ah oui, voilà. Il y a maintenant des rumeurs, enfin qui semblent plus que des rumeurs, qui sont que des bâtiments amphibies et des brigades de Marines vont être déployés dans la région, enlevés de là où ils étaient. Il y en aurait au moins 2200 apparemment, je crois que c'est le 31e Marines. Marines, comme on dit dans les films. Et je voudrais vous montrer, on va rebasculer là, je voudrais vous montrer justement, à mon avis, à quoi ça peut servir. Il y a deux choses dont vous avez dû entendre beaucoup parler. La première, c'est l'île de Karg, c'est celle-ci, voilà, que vous voyez ici, qui est le grand relais qui permet, par lequel les Iraniens font passer, je crois, 90% de leur exportation de pétrole, qui ensuite part, vous le savez, notamment en direction de la Chine. Et l'île de Karg, donc, la prendre, ce serait un moyen de couper les revenus pétroliers de l'Iran, et donc notamment des gardiens de la Révolution, et donc d'affaiblir encore un petit peu plus l'économie du régime lui-même. Alors, il a été noté par des spécialistes de la région, je pense à Cédric Labrousse, que je conseille de suivre sur ce sujet, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit en ce moment, mais il a une connaissance indéniable de la région très très approfondie. Et donc, je crois que c'est lui qui a rappelé que pendant la guerre Iran-Irak, les Irakiens ont très régulièrement frappé l'île de Karg, sans jamais que ça ait un effet totalement, un véritable effet stratégique sur les Iraniens, puisque les Iraniens ont toujours réussi à reconstruire et à réparer les capacités de raffinement de l'île. Et vous voyez, hein, il y a plein de cuves de pétrole. Et donc ça n'a jamais eu d'effet de blocage de l'industrie pétrolière, et donc ça n'a jamais permis de faire plier l'Iran. Mais la différence à l'époque, c'est que Saddam Hussein, il a envoyé des avions pour bombarder Karg. Là, il s'agirait pour les Américains de débarquer dessus et de s'en emparer. Et alors là, s'ils font ça, effectivement, ils arrivent à bloquer totalement le truc. Et pour le coup, c'est un effet que les Irakiens n'ont jamais réussi à obtenir pendant la guerre, ce qu'on appelait avant la première guerre du Golfe, hein. Normalement, celle de 91, c'était la deuxième, et celle de 2003, c'était la troisième, mais en fait, comme personne ne se souvenait de la guerre Iran-Irak comme autre chose que de la guerre Iran-Irak, bah, du coup, on appelle plus ça la première guerre du Golfe. Mais bref, donc, à cette époque-là, ça n'avait pas eu d'effet. Là, ça pourrait en avoir un. L'autre intérêt que pourrait avoir des opérations au sol, donc mais limitées, me semble-t-il, c'est justement la prise de cette île de Keshm, qui est ici, et des îles d'à côté, notamment l'île d'Ormuz, justement, et l'île de Larak. Si les Américains pouvaient prendre ça, ça serait un moyen, sans doute, de sécuriser fortement le détroit. Et il est tout à fait plausible, d'ailleurs, qu'ils veuillent plus que ça. C'est-à-dire que les Américains peuvent vouloir prendre aussi une partie du rivage. Là, une espèce de ligne de tête de pont sur une partie du rivage iranien pour protéger au maximum le détroit et pour prendre totalement le contrôle du détroit. Parce que, en bonne thalassocratie, il est vraisemblable que le principal but de guerre, c'est ça. Alors, naturellement, un moyen de contrôler le détroit, c'est d'avoir un régime favorable à Téhéran, donc obtenir effectivement un changement de régime avec un régime qui serait plus favorable aux intérêts américains. Mais un autre moyen, si ce régime ne tombe pas, en attendant, c'est en tout cas au moins de saisir le détroit d'Ormuz, éventuellement quelques îles, notamment l'île de Karg, et ensuite d'attendre que l'Iran vienne ou ne revienne pas à des meilleurs sentiments, mais en occupant cette partie-là. Et ça, alors, ça peut avoir des complexités militaires, mais à partir du moment où vous êtes arrivé au degré de domination aérienne des Américains, qui font qu'il serait impossible pour les Iraniens de préparer la moindre concentration de troupes pour essayer de virer les Américains s'ils arrivent à prendre pied là-dessus. Et nul doute que les Américains arriveront à prendre pied là-dessus. Je rappelle quand même, je crois que je l'ai rappelé la semaine dernière, mais je leur ai dit, vous voyez l'Irak, les Américains ont mis un mois et demi à prendre la totalité de l'Irak en 2003. Ils ont mis un mois et demi et ils ont perdu moins de 150 bons hommes. Pour dire le niveau du truc, quoi. Bon. Là, ils ont déjà la suprématie aérienne totale sur l'Iran. L'Iran est devenu très peu capable de lancer de nouveaux missiles. Alors, vous avez beaucoup de gens qui disent « Oui, mais vraisemblablement, l'Iran, ils gardent leurs missiles. » Vous savez, ils ont gardé leurs meilleurs missiles qu'ils pourront tirer après, une fois que les défenses aériennes seront épuisées, etc. Alors, ils ont réussi à toucher un certain nombre de radars, naturellement, notamment des radars du système TAD, ce qui doit être handicapant pour les Américains, déjà parce que ça coûte très cher et parce qu'ils n'en ont pas tellement et qu'ils ont dû en faire venir de Corée, je crois, pour remplacer. Donc, effectivement, ça a été du succès pour les Iraniens, mais bon, c'est quand même très insuffisant pour gagner une guerre. Et surtout, depuis, et je pense que ça va être votre cas aussi, depuis 4 ans de guerre qu'on a en Ukraine, et notamment on a vu comment ça s'était passé en Ukraine, je pense que vous avez tous beaucoup musclé votre détecteur à bullshit et à pseudo-théorie sur le ressort extraordinaire qui serait caché et qui serait montré au moment où, et que vous aurez compris que quand les mecs peuvent pas, quand on a l'impression que les gens ne sont pas capables de faire quelque chose, c'est qu'en fait, vraisemblablement, ils ne sont pas capables de le faire de toute façon. Vous savez, si vous vous souvenez des premières semaines de conflit en Ukraine, assez rapidement, il avait été dit que bientôt les Russes seraient à court de missiles et donc ne pourraient plus tirer à la même cadence. Et ça a été vrai, en fait. Donc vous aurez beaucoup de gens qui rigolent aujourd'hui en disant « Ah, on disait qu'ils n'avaient plus de missiles ». Évidemment, les Russes ensuite ont fait une transition industrielle, ils se sont remis à en fabriquer, et donc ils peuvent, et donc ils tirent à la cadence à laquelle ils tirent aujourd'hui. Mais il y a eu des mois pendant lesquels les Russes ne tiraient pratiquement plus de missiles, ou allaient déstocker des vieux missiles anti-navires qui n'étaient pas très précis, etc. Précisément parce qu'ils n'avaient plus de missiles, parce qu'ils avaient effectivement quasiment épuisé leur stock de missiles. Donc c'était un calcul qui était vrai, quoi. Il n'y avait pas des secrets de stock de missiles. Donc c'est des choses qu'on sait à peu près. Donc il est vraisemblable que quand les Américains et les Israéliens disent qu'ils ont détruit X lanceurs iraniens et que vous voyez que cette information est corrélée avec le fait que vous voyez beaucoup moins de missiles partir, c'est vraisemblablement qu'effectivement les Iraniens n'ont plus cette capacité-là. Donc quand Donald Trump explique, sans doute un peu vite, que la guerre est gagnée parce que ils ont plié l'aviation, ce qu'il en restait, iranienne, qu'ils ont détruit une grande partie de leur capacité de missiles, qu'ils ont coulé leur flotte. Il faut quand même dire qu'en grande partie, c'est vrai. Et je reviens encore une fois sur ma question des dissidents, comme d'ailleurs des médias de grand chemin, comme ils disent, les médias mainstream, c'est que les uns comme les autres ont du mal avec la prise de conscience de ce qu'est la puissance militaire américaine. Encore une fois, je reviens là-dessus, mais naturellement, les pro-russes, etc., veulent croire, et ce sont souvent des gens qui croient depuis des décennies maintenant, que, quelque part, les Russes et les Chinois, un jour, vont les délivrer de la domination américaine. Voilà, parce qu'ils supportent pas l'ordre américain en général, qu'ils sont pas satisfaits de ce qui se passe dans leur pays, qu'ils attribuent aux Américains, enfin, pour un tas de raisons, je vais pas revenir dessus. Mais donc, forcément, quand la confrontation démarre, et que les forces du bloc se prennent une tôle totale, en fait. Hein. C'est ça qui est. Il n'y a rien de nu. Les mecs, ils avaient des défenses antiaériennes chinoises, ça n'a rien donné. Au Venezuela, les défenses russes n'ont rien donné non plus. On aurait un conflit conventionnel entre la Chine et les États-Unis. Je suis de plus en plus convaincu que les Chinois ne feraient pas des étincelles. Donc pour tous ceux qui sont le camp pro-russe, etc., c'est un gros problème parce qu'en fait, ces gens-là s'aperçoivent que face à Trump, et donc ils vont lui en vouloir beaucoup pour ça, il y a toujours une invariance derrière Donald Trump qui est l'invariance de la puissance américaine. Voilà. Et cette puissance, et Trump ne sera pas l'isolationnisme. En fait, ils espéraient que Trump, par isolationnisme, les libérerait. Au fond, ils ont eu le tort de croire exactement au même mythe qui a été celui qui était celui des grands médias de l'establishment en Occident, qui était de croire qu'effectivement Donald Trump est isolationniste. Il n'est pas isolationniste du tout. Il est alter-impérialiste. Donc c'est une autre vision de l'Empire. Donc ça, ça l'énerve. Et de l'autre côté, vous avez les membres justement de l'establishment qui sont totalement affolés par le fait que Trump dispose de cet outil impérialiste américain qu'eux n'ont pas. Et encore une fois, ces gens qui ont eu tendance justement à se hausser du col quand il a été question du Groenland, ben ça vous rappelle que, ben oui, mais enfin, si vraiment il veut le Groenland, il aura le Groenland. La question se pose pas tellement, quoi. Hein. Donc forcément, les gens sont pas contents. Bon, nous, ici, on n'est pas là pour faire l'émotionnel, on est là pour prendre le monde tel qu'il est et essayer de le comprendre. Donc voilà quel est, à mon avis, si y a un but de guerre américain, c'est à la fois neutraliser l'Iran comme puissance hostile et membre du bloc. Voilà, donc ça, en partie militairement, c'est fait. Et deuxième point, il faut que le détroit d'Ormuz soit sécurisé. Voilà, pour que le bloc n'ait pas de capacité de bloquer cet endroit qui est stratégique. Voilà. Donc sans doute que s'il y a un déploiement à terre, et je pense qu'il va y en avoir un au moins partiel, ça sera pour saisir quelques îles, à la fois bien sûr celle de Kar qui est mentionnée, mais moi je dirais surtout dans le détroit d'Ormuz, parce que si vous prenez le détroit d'Ormuz, de toute façon, les autres ils peuvent garder l'île de Kar, rien ne passera puisque c'est les Américains qui contrôleront le détroit. Donc a priori, et encore une fois, ça serait très très thalassocratie comme façon de faire. Et pour moi, c'est dans ce sens-là qu'ils vont aller. Donc ça c'est pour la but de... Et donc le fait que voilà, Donald Trump avait mentionné 4 semaines, on va voir ce qui se passe dans la semaine qui vient, ça peut durer quelques semaines de plus encore, mais voilà, la guerre avance, et en tout cas militairement, l'Iran n'a vraisemblablement pas tellement les capacités de toute façon gagner cette guerre. Et ensuite on va arriver sur l'autre question justement, qui est celle de savoir la survie du régime. Est-ce que le régime tient? Alors... Forcément, il y a une question. C'est-à-dire, tant qu'il donne l'impression de tenir, on peut avoir l'impression qu'il tient, mais ça peut n'être qu'une impression. Dans le sens où, déjà, il faut se sortir de cette idée. Vous savez, on est habitué. On est habitué à voir la guerre par quel canal essentiellement. On est habitué à voir les guerres par des séries documentaires, quand on étudie les guerres du passé. Et de manière générale, toute intrigue qu'on analyse, on est habitué à la voir par le prisme des séries, c'est-à-dire avec du temps compressé. Et donc on est habitué à attendre, voilà, le résultat suivant, quelle est l'étape suivante. Or, les choses prennent longtemps. Les choses prennent du temps, et l'histoire met du temps à se faire, notamment parce que elle se fait beaucoup, l'histoire, sur la base de la psychologie humaine, qui, elle, ne ralentit pas. Et en ce qui concerne justement les structures psychologiques, on va dire, du régime, parce que ça va être composé d'êtres humains, un régime comme ça, d'accord? Le dirigeant principal a été tué. Une bonne partie de la chaîne de commandement d'en haut a été tuée. Ils sont passés dans leur système de commandement décentralisé. Très bien. Bon, ça j'ai déjà parlé, j'insiste pas là-dessus. Même si le risque d'éclatement mosaïque est quand même assez important. Mais la réalité, c'est que cette idée-là de commandement décentralisé, justement, ça ne tient que si tous les commandants décentralisés sont convaincus que le régime lui-même existe encore. Parce que les gens, encore une fois, ont une psychologie d'individu et n'agissent pas comme des robots. C'est pas parce que vous leur avez dit, avant de vous faire buter, si je meurs, fais comme ci et comme ça, que les gens vont le faire automatiquement. Souvent, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont le faire dans les premières heures parce que ben, ils sont incapables de réfléchir, ils sont dans le déni, ils sont secoués par le fait que vous êtes mort, vous n'êtes plus là. Donc ils vont commencer par respecter votre volonté. Ils vont récupérer l'autonomie de leur propre volonté au fil du temps, au fur et à mesure où on s'éloigne de vos consignes et où psychologiquement ils se libèrent de ça, en fait, hein, tout simplement. Et où ils font un petit peu leur deuil en constatant qu'ils ne sont plus dans le monde dans lequel vous étiez là pour leur donner des ordres. Donc en fait, pour moi, le fait que ça tienne encore vient assez largement d'une illusion qui vient du fait que justement les mecs se comportent encore comme si ça tenait encore. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais il faut vous mettre en tête ça justement, c'est que imaginez, vous êtes à la place d'un officier général à la tête d'une des 32 provinces d'Iran. L'attaque américaine a commencé, vous avez votre guide suprême qui a été buté, vous avez tout un tas de vos installations qui sont butées, peut-être même vous-même avez été buté, disons, vous êtes le deuxième dans la ligne qui a récupéré le poste de son commandement de la 31e, il sait qu'il est chargé d'en avoir désigné trois autres derrière lui si jamais il se fait buter à son tour, et donc vous continuez à faire tout comme si, d'accord ? Vous continuez à obéir. En attendant, ça tombe de partout, vous avez maintenant des frappes en plus ciblées sur les Basij qui commencent à avoir lieu également. On peut supposer que, toujours entre la CIA et surtout le Mossad, sur place, il y a des capacités d'action qui existent à petite échelle. On va arriver à un moment, alors que les bombardements se poursuivent, encore une fois, hein, où les discours affirmés par le pouvoir central vont être confrontés à ce que vivent les gens à leur échelle. Et donc, petit à petit, vous allez avoir l'illusion que le régime tient toujours, parce que les gens sont dans le déni, en fait, hein, c'est un processus de deuil, hein, tout simplement, qui va commencer à se dissiper avec la prise de conscience qu'on est dans autre chose. Et à partir de là, vous allez avoir des gens qui vont commencer à agir comme s'ils étaient dans autre chose, justement, parce qu'ils sont effectivement dans autre chose. Mais il faut le temps qu'ils le comprennent, d'accord ? Non, c'est pas occidental, mon analyse psychologique des soldats iraniens, c'est tous les gens, c'est toute l'humanité qui fonctionne comme ça, d'accord ? Même si vous êtes fanatisé psychologiquement, il y a un moment où vous devez... L'obéissance à une structure, elle se fait pas... Parce que si vous voulez, de toute façon, il faut quand même une structure de commandement, il faut une hiérarchie. Il y a un moment où vous ne pouvez pas faire comme s'il n'y avait pas de hiérarchie. Vous aurez forcément des gens qui pensent pas pareil, qui ont une analyse différente de la situation stratégique, et qui ont un commandement autonome sur la région où ils sont eux. Donc forcément, ça finit par amener à la naissance de factions, amener à la naissance de frictions aussi entre les différents courants de gens qui veulent savoir ce qu'ils font. Par ailleurs, à l'intérieur du régime, vous avez eu la désignation de Mojtaba Khamenei. Donc encore une fois, on ignore dans quel état il est. D'après certaines informations, il aurait juste eu quelques contusions, il aurait eu une blessure, un pied cassé. D'après d'autres informations, il est carrément dans le coma, il lui manque une jambe. Bon, je ne sais pas. Je ne peux pas le savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'assez clairement, il n'est pas en état de se montrer, que lors de l'espèce de célébration d'allégeance qu'ils ont tenue à Téhéran, on a quand même montré une effigie de lui en carton, ce que j'ai trouvé extrêmement illustratif. Je suis sûr que ça restera comme ça, d'ailleurs, dans l'histoire. Le fait que vous montrez une effigie en carton de l'ayatollah, pour moi, ça dit tellement ce que c'est que le régime, en fait. Ça reste une effigie en carton. Alors, les gens font coucou à l'effigie en carton, mais il n'est plus là, ça marche pas. Et il y a un moment où les mecs qui sont censés obéir à l'effigie en carton vont s'apercevoir qu'il n'y a plus qu'une effigie, et vont admettre le fait que ce n'est plus une effigie en carton. Je crois pas que ce soit fake, hein. Alors moi, je l'ai vu passer, j'ai pensé que c'était fake, de base, mais après vérification, ça semblait authentique, hein. Maintenant, revérifier, si vous voulez. Moi, j'avais vérifié hier, je crois que j'avais demandé... à une IA, je ne sais plus laquelle, et que disait que ça avait l'air correct. Donc, en tout cas, on l'a pas vu. Alors, peut-être que l'effigie en carton, c'est faux, si vous voulez, mais en tout cas, on l'a pas vu. Donc, il y a ce côté fantôme. Alors, il y a une petite tradition du truc fantôme, quand même, hein, dans l'Iran. Il ne faut pas oublier, c'était Hassan Ibn Sabah, le chef de la secte des assassins, qui, dans sa forteresse d'Alamout, justement, était planqué dans sa montagne. On l'appelait le vieux de la montagne. Et il agissait comme ça. Mais avoir désigné un presque mort éventuellement, à la limite, en soi, ça aurait sa logique déjà dans un état de décomposition du pouvoir. Parce que si vous désignez un presque mort, vous n'aurez personne qui va contester l'élection. Parce que les gens qui sont hostiles se disent « Bon, de toute façon, il est mort, on s'en fout. » Vous voyez, Larry Jani, par exemple, qui est un des hommes forts du pays, lui, il était hostile à ça. A priori, il poussait plutôt pour son frère. Bon, à côté de ça... Il y avait des gens qui mettaient en doute les capacités et le titre réel du fils de Khamenei religieusement à avoir cette fonction, hein, de pape du schisme, hein, c'est un petit peu vu comme ça. Il y a des mollahs, semble-t-il, une partie des mollahs vraisemblablement, qui vont être hostiles, surtout que Mojtaba Khamenei est très très proche du corps des gardiens de la Révolution. Et malgré tout, le corps des gardiens de la Révolution, même s'ils sont censés protéger la République islamique, etc., c'est pas des mollahs, les mecs. Et les mollahs qui continuent à estimer que la théocratie et la légitimité du régime, elle est fondée justement sur le fait qu'il est théocratique et qu'il obéit aux mollahs, s'ils s'aperçoivent en fait que ça obéit aux soldats qui sont censés protéger les mollahs, eh bien ça change la nature du régime. Donc vous aurez forcément au moins une partie des mollahs qui auraient soutenu le régime tant que l'illusion de la théocratique du régime était maintenue, qui vont commencer à s'en détacher. Et là, on arrive sur autre chose, qui est la question de l'issue. Alors, sur l'issue de la guerre, vous avez beaucoup de gens qui vous disent, et j'entends énormément ça sur les plateaux de télévision, il n'y a pas d'opposition construite, on ne voit pas qui on mettrait à la place. Sachant que Reza Pahlavi, effectivement, il ne faut pas y compter. On ne voit pas qui c'est qu'on y mettrait. Parce qu'il n'y a pas d'opposition, l'opposition n'est pas armée, l'opposition n'est pas structurée, etc. Et donc, presque, en gros, ça serait foutu. Et du coup, vous avez l'analyse des services secrets américains, semble-t-il aussi israéliens, qui disent que le régime n'est pas prêt de tomber. Bon, alors déjà, il faut se souvenir qu'en août 1978, à la veille du Vendredi Noir, la CIA pensait que l'Iran n'était pas en situation révolutionnaire, ni même pré-révolutionnaire. Quatre mois après, le chat n'était plus là. Hein. Donc déjà, il faut toujours revoir le truc sur la réalité, si vous voulez, de la lucidité des services de renseignement. Mais en plus, il y a encore autre chose, qui est que de toute façon, dans le type de révolution que j'annonce pour l'Iran, parce que je rappelle que je vous dis que si selon moi le régime ne va pas tenir, c'est parce qu'il était déjà au bord de tomber, ou en tout cas il était déjà mûr pour tomber, il manquait éventuellement que les gardiens de la révolution s'étrier, mais bon, ça c'est arrivé maintenant, hein, et c'est en cours. Dans les autres exemples qu'il y a donc, ce n'est jamais une opposition constituée qui a fait tomber véritablement le régime. Ce ne sont pas des révolutionnaires qui ont renversé le régime. Ce sont des gens dans le régime ou en périphérie, marge du pouvoir du régime, auxquels se sont ralliés des gens qui étaient dans le régime mais qui n'acceptaient plus ce qu'était le régime, et qui ont permis le basculement vers autre chose. L'exemple que je vous donne le plus souvent, c'est Boris Eltsine. Boris Eltsine, ancien membre du Parti communiste, qui faisait partie de l'administration soviétique, hein, qui était arrivé à des postes assez importants, jusqu'à ce qu'il traite une partie des dirigeants communistes salauds de corrompus. Il avait dû faire son autocritique d'ailleurs. Donc il avait été écarté de ses fonctions en 1988. Et ensuite, il a réussi à se faire élire comme président du Présidium, qui est devenu le président de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, donc qui était l'équivalent de la Fédération de Russie, mais dans l'Union soviétique. Et là, une fois à ce poste, alors qu'il avait cette relative légitimité démocratique, et il faut se souvenir que même à ce poste encore, le président donc de la RSFSR n'avait aucun contrôle ni sur la police, ni sur l'armée, ni sur le KGB naturellement, enfin, ni sur aucun des organes de sécurité du pouvoir. Il n'avait pas de pouvoir réel. Et pourtant, c'est ce personnage-là qui a arraché tout le pouvoir réel à Gorbatchev et à l'appareil soviétique, et qui a sorti la Russie de l'URSS, et c'est ça qui a fait tomber l'URSS. Et le mec, c'était un insider. Il est sorti du Parti communiste quasi au dernier moment, si vous voulez. Et c'est pareil dans toutes les révolutions nationales. Si vous prenez la révolution allemande de 1918, ce qui a changé, c'est juste un petit shift dans la Constitution, où tout d'un coup, on a décidé que le chancelier serait responsable devant le Parlement parce qu'il y avait un gros affaiblissement et qu'il y avait un flottement au niveau de la direction du pays par Hindenburg et Ludendorff, qui était l'appareil qui représentait l'appareil militaire qui dirigeait véritablement l'État prussien. Et donc, vous avez le pouvoir civil qui a récupéré le pouvoir comme ça, mais c'est un pouvoir civil qui existait déjà. Et donc, tout ça en Iran, vous l'avez déjà. Vous avez une assemblée, un Parlement. Et vous avez un président civil qui est Massoud Pezeshkian, qui existe et qui se promène dans la rue, et on l'a vu aujourd'hui. Et visiblement, il n'est pas sur les killing lists, lui. Et je suis à peu près persuadé, mais d'ailleurs, de plus ça va, plus je suis persuadé, que quand Trump a dit au tout début, malencontreusement, tous ceux avec lesquels on espérait remplacer Khamenei sont morts parce qu'on a été trop efficaces, c'était naturellement du bullshit, et c'était aussi un moyen, d'une certaine manière, sans doute, de couvrir ceux qu'ils avaient épargnés, parce qu'il pouvait être utile à remplacer. Et dans la personnalité, si vous voulez, Pezeshkian, il est intéressant parce que c'est assez similaire à ce qu'était Boris Eltsine. Pezeshkian a toujours protesté, pour ça qu'il était considéré comme le candidat réformiste lors des dernières élections. Pezeshkian a toujours contesté la brutalité de la répression depuis 2009, déjà à l'époque où c'était dangereux de contester ça. Il avait été interdit de se présenter par le Conseil des gardiens de la Révolution en 2021. Il n'a été autorisé qu'en 2024. Alors, je ne dis pas que ce sera forcément Pezeshkian, mais Pezeshkian est en bonne place. Et ça serait un point de ralliement naturel, justement, d'un certain nombre de mollahs qui ne veulent pas des IRGC, etc., pour éventuellement proposer une alternative. Et donc, ce scénario-là, à mesure que de plus en plus les Basidji, les gardiens de la Révolution, sont touchés, je pense qu'il va se jouer. À un moment, vous allez... Pour l'instant, on ne voit pas trop de désertions, de trucs comme ça, mais encore une fois, ils sont tous groggy. Sans doute, ils se regardent. Les gens n'osent pas trop faire défection parce qu'ils ont l'impression que ça peut tenir encore. Mais si vous voulez, ça peut basculer assez rapidement. Et à mon avis, c'est ce qu'on pourrait finir par voir. Maintenant, ça dépendra aussi, encore une fois, de la suite des frappes et également de la saisie éventuelle du détroit d'Ormuz par les Américains. Mais il faut bien avoir en tête, encore une fois, que tout ceci a commencé il y a 13 jours. C'est extrêmement court. Souvenez-vous, au bout de il a fallu un mois et demi aux Américains pour faire tomber l'Iran de Saddam Hussein. Ouais. Il n'a pas fallu juste 15 jours, il a fallu un mois et demi. Donc là, on est sur un pays qui est trois fois plus grand, qui est martelé comme peut-être encore l'Irak ne l'avait jamais été. Et alors que, contrairement à l'Irak de Saddam Hussein, ce pays était, il y a un mois, encore au bord de la révolution en raison des manifestations qu'il y avait à l'intérieur. Donc il n'est même pas impossible que tout ceci finisse par se calmer et que les éruptions populaires ne reprennent que dans 2, 3, 4 mois. Mais pour moi, ce régime actuellement est encore un cadavre debout. Et donc dire que les Américains sont en train de s'enliser, que c'est une catastrophe, etc., naturellement, la fermeture du détroit d'Ormuz pose des problèmes, mais c'est pas si, si catastrophique que ça. Maintenant, il y a aussi la question de savoir si nous, en France, on va être attirés là-dedans. Alors, des dernières nouvelles que j'ai lues avant de faire l'émission, il me semble pas qu'on allait vers ça. En gros, c'était qu'on surveillait tout ça avec, avec sérieux, mais que notre position restait défensive. J'ai vu qu'il y avait des rumeurs comme quoi les Français avaient essayé de discuter avec les Iraniens mais pour laisser passer leur bateau, mais je sais pas si c'est pas de la désinformation, voire des ricanements américains à notre endroit. Ce qui est très clair, c'est que, encore une fois, on est face à un régime qui... Alors, c'est assez logique, hein. Mis devant... alors, l'Iran ne se serait probablement pas lancé dans cette guerre tant qu'il n'avait pas l'arme nucléaire. Je pense qu'il l'aurait fait une fois qu'ils auraient eu l'arme nucléaire, hein, de ces attaques tous azimuts, etc. Parce que, comme je vous l'avais expliqué, je crois, l'année dernière, dans une vidéo où j'avais essayé d'expliquer quels étaient les buts de l'Iran en tant qu'ancien régime finissant, en comparant là aussi avec l'Allemagne, etc., ben, les buts de guerre de l'Iran, c'était de s'établir définitivement comme puissance régionale en chassant définitivement, si possible, les États-Unis du Moyen-Orient. Alors, tant qu'ils n'avaient pas d'armes nucléaires, ils ne se seraient pas lancés d'eux-mêmes dans cette guerre contre les États-Unis pour les virer, parce qu'ils n'étaient pas suicidaires. Mais maintenant que les Américains les ont attaqués, c'est leur ligne. Et c'est celle qui a été mentionnée par Mojtaba Khamenei en disant « Notre but de guerre à nous, c'est que vous foutiez le camp et que vous dégagez avec toutes vos bases américaines dans la région. » Et en essayant de faire pression sur les pays voisins, tous les pays arabes, notamment, pour que eux décident d'évacuer les Américains. Je pense que ça n'arrivera pas, que c'est peu vraisemblable, notamment parce que tous ces pays-là, alors certains vous disent, oui, ils se sont rendus compte que le parapluie américain n'était pas si absolu, etc. Oui, mais enfin, ils se rendent compte aussi d'une autre chose, c'est que l'Iran est assez fou pour leur tirer dessus quand il veut, leur faire du chantage, et que donc si en plus il n'y avait pas les Américains, ça serait probablement pire. Donc je ne crois pas à la défection des pays arabes vis-à-vis des Américains dans ce sens-là. Mais donc ils se sont lancés typiquement dans le genre de guerre que fait ce genre de régime en fin de course, mais bon, et du coup ça les a amenés notamment à frapper les Français, et peut-être qu'ils vont continuer, on va voir, mais c'est vrai que je doute qu'on se lance aussitôt dans la guerre, même si on va peut-être mener nous aussi des frappes ici ou là à titre symbolique. Maintenant, il y a quand même autre chose qui est intéressant, j'y pense là maintenant, parce que je pense pas que j'en ai reparlé depuis. Je vous parlais de Pezeshkian un instant. La semaine dernière, ou dans la semaine, là, Emmanuel Macron aurait parlé à la fois à Pezeshkian et à Donald Trump, et on n'a eu aucun écho de ce qu'ils se sont dit. Alors moi, je trouve ça intéressant. J'aurais quand même été curieux de savoir ce qui se sera raconté. Mais voilà. Ça me fait rire qu'il y ait encore des gens venir dire que l'Iran ne voulait pas d'armes nucléaires. T'enrichis pas de l'uranium à 60%, c'est pas pour faire de l'arme nucléaire. T'as pas besoin d'aller au-dessus de 10% si c'est pour faire c'est pas pour faire une arme nucléaire. Et en même temps, ils ont toujours dit eux-mêmes qu'ils voulaient l'arme nucléaire. De toute façon, faut pas déconner quand même. C'était déjà à l'époque du chat. Ils avaient commencé à le préparer. donc il faut quand même pas déconner. Donc voilà où on en est. Au bout d'une semaine de plus, il va y avoir encore plusieurs semaines. Je pense que ça va beaucoup nous occuper parce que dans le cadre de la guerre, c'est quand même important. Alors maintenant sur cette question des Hormuz, néanmoins, forcément il y a des conséquences chez nous. Alors je vais pas entrer dans le détail. Je pense que j'aurai l'occasion d'en parler un petit peu dimanche soir. Mais forcément, une augmentation du prix du pétrole chez nous, ça risque d'avoir des conséquences politiques importantes. Et c'est pour ça, encore une fois, que je pense que les municipales vont être aussi un moment important. Sachant que, du coup, l'histoire du litre d'Hormuz permet aussi de dissimuler le fait que désormais, sur chaque litre d'essence, vous payez un certificat énergie de 17 centimes, je crois, qui est une nouvelle taxe forfaitaire par litre d'essence, qui est déjà responsable de, grosso modo, la moitié du bon de 30 centimes que vous avez observé depuis une semaine. Et ça, c'est grâce au gouvernement, c'est pas à cause du litre d'Hormuz. Hein. Donc il faut quand même l'avoir en tête, je pense, aussi. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Si j'ai encore une dernière chose à dire, mais avant de vous le dire, je vous rappelle que nous avons besoin de votre soutien, c'est extrêmement important. On a fait énormément d'efforts pour déployer l'audience de la chaîne. J'essaie de vous faire plein d'émissions en ce moment. Je vous en ai même fait, au lieu de faire sauter les émissions les semaines de Super Live privé, je vous ai quand même fait les émissions en plus en direct sur le début du frappe en Iran. J'en fais une aussi dimanche soir. Je suis là pour vous, soyez un petit peu là pour moi, n'hésitez pas à me payer un café sur Tipeee, ou si vous voulez accéder aux contreparties, nous rejoindre selon les modalités qui sont toujours en description des vidéos. Oui, la dernière chose que je voulais dire, juste pour revenir sur les grands médias, justement, on a l'impression, et ça vous dit encore, qu'en fait ils ne sont toujours pas remis de leur idée que, contre toute évidence, hein, que Trump, il y a une proximité entre Trump et Poutine et qu'en fait ils les détestent parce que ce sont des ennemis de l'establishment. C'est qu'en fait, si vous regardez, les médias traitent l'attaque américano-israélienne contre l'Iran de la même manière que ils ont traité, alors peut-être pas exactement de la même manière, mais avec la même idée, qu'ils ont traité la guerre en Ukraine. Alors pour la guerre en Ukraine, c'était vrai, qu'il y a eu un enlisement qui s'est fait relativement vite. Mais je trouve ça intéressant qu'ils fassent la même chose avec l'Iran, parce qu'à mon avis, ils vont justement beaucoup trop vite dans cette direction-là, avec l'idée qu'il y a un enlisement américain en Iran. Il n'y a pas encore de troupes au sol. Même s'il y a des troupes au sol, je ne pense pas que ce sera extrêmement coûteux aux Américains. Encore une fois, je renvoie à la façon dont ils avaient... Il faut se rendre compte, encore une fois, du professionnalisme, des capacités américaines, du travail interarmes, tout ça. Vous savez, il y a des auteurs qui ont travaillé là-dessus, hein, qui ont écrit pour montrer pourquoi, notamment, les armées des grandes démocraties étaient beaucoup plus efficaces que les armées des régimes autoritaires. Et qui avait une supériorité intrinsèque là-dedans, c'est que la guerre qui implique la bataille aéroterrestre moderne, ça oblige d'avoir des chaînes de commandement et des militaires qui ont une relative liberté de pensée, qui ne sont pas jugés sur leur loyauté mais sur leur professionnalisme et leurs compétences, et qui sont tout simplement des gens intellectuellement capables. Et le problème de ces gens-là, c'est que souvent ils sont aussi ambitieux. Et si vous êtes dans un système autoritaire, les gens ambitieux ont tendance à vouloir grimper dans l'échelle, voire essayer d'être calife à la place du calife. Ce qui fait que dans les régimes autoritaires, il y a toujours une propension à purger ces éléments-là et les empêcher de monter trop haut. Alors que les régimes démocratiques, les régimes libéraux, sont beaucoup plus capables de promouvoir justement leurs soldats efficaces, ce qui fait que vous trouvez avec des techniciens très capables. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que ça coûte effroyablement cher. Donc il faut que les gens soient extrêmement entraînés pour que tous ces trucs-là soient très efficaces. Et la réalité, c'est que la plupart des pays, les puissances, on va dire, comme la Russie, qui est toujours une puissance pauvre, mais donc qui ont des gros stocks d'armement et tout, en réalité ne sont pas capables d'avoir ce niveau d'exigence, parce que c'est plutôt au niveau de l'entretien et de l'investissement que vous faites sans arrêt sur votre appareil militaire et l'entraînement de vos soldats que vous obtenez ce type de supériorité. Et c'est pour ça que, d'ailleurs c'était un bon exemple pour la guerre contre l'Irak de Saddam Hussein, mais c'était également le cas pendant toute la guerre Iran-Irak, en réalité c'est des gens qui avaient des avions, qui avaient des tanks, mais qui ne faisaient pas de combat interarmé. Et donc qui étaient incapables de faire des grandes percées, des trucs, ce que font les Américains. Quand les Américains ont tracé en Irak, c'était impressionnant. Et c'est non seulement une question de supériorité, mais c'est une question d'armes combinées. Si vous ne savez pas faire ça, ben vous utilisez tout ça un petit peu en vrac, et vous n'obtenez pas du tout les mêmes résultats. C'est problème de doctrine, c'est problème d'utilisation. Et donc, encore une fois, les Américains avaient fait une... Je le répète, hein, mais quand vous avez un budget militaire de cette taille, encore une fois, il n'y a pas le même niveau de corruption qu'en Russie, il n'y a pas le même niveau de corruption qu'en Chine, et sans doute pas le même niveau de corruption qu'en Iran non plus. Du coup, cet argent, il est quand même relativement mieux dépensé. Je pense que 1 dollar du budget militaire américain n'équivaut pas à 1 dollar dans ces budgets militaires des autres pays. La réalité, c'est qu'il est sans doute toujours beaucoup plus efficacement dépensé côté américain, et ça vous donne des résultats qui sont de ce genre-là. Encore une fois, voilà, c'est la supériorité américaine qui est un fait établi. Et donc, à partir du moment où ils avaient perdu 150 gars il y a 20 ans, alors que le gap technologique n'était pas encore le même qu'aujourd'hui, ils avaient perdu, je vous l'ai dit, je crois, dans la dernière mission, ils avaient perdu 45 avions en envahissant l'Irak en un mois et demi. Là, ils en ont perdu, je crois, 4. Ouais, ils en ont perdu un de plus. Enfin, on est 10 fois moins, quoi. Bon, alors après, on n'est qu'à la moitié du temps, mais enfin, on est 5 fois moins, quoi. Enfin, vous voyez, c'est pas pareil. Et c'est que des vieux appareils qu'ils ont perdu. Donc, s'il s'agit juste de prendre un petit bout de terre, comme ça, saisir le détroit d'Ormuz, franchement, ils peuvent le faire et éventuellement, ils perdront quelques dizaines de mecs, mais les autres seront incapables de contre-attaquer. Ils seront sous le feu aérien, à supériorité. Maintenant, les Américains, semble-t-il, ont même ramené les Thunderbolts, donc ça risque d'être très très compliqué. Enfin, dernière observation quand même, avec cette guerre en Iran, il faut se rendre compte que on se retrouve désormais avec une espèce de front presque continu entre, selon que vous prenez ce qui est en guerre, mais enfin, si vous prenez l'Ukraine, vous partez de l'Ukraine et vous arrivez jusqu'au détroit d'Ormuz, en fait. Et en réalité, vous pouvez monter en haut, puisque forcément, il y a les défenses de part et d'autre de l'OTAN et de la Russie qui s'accumulent à la frontière finlandaise et à la frontière pays-balte. Et donc, en fait, vous avez une espèce de grand front, comme ça, qui se dessine. Il n'y a pas encore de front qui se dessine de l'autre côté, mais vraisemblablement que ça finira par arriver. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Alors, je vais jeter un petit coup d'œil. Je n'ai pas l'Iromissime ce soir pour me faire les trucs. Ah, si, il m'a dit des trucs. Mais finalement, ah ouais, on est rentré. Très bien. Alors, là, il m'avait dit pas de son tout à l'heure. Je suis désolé, parce que du coup, j'ai pas surveillé ce qu'il me dit. La relance du débat... Alors, merci à Dominique pour le don. La relance du débat sur le nucléaire, votre opinion, s'il vous plaît. Ben, mon opinion, c'est que c'est délirant, quoi. C'est délirant. Alors, c'est pas délirant en soi, c'est bien, tant mieux. J'ai envie de dire bravo. Mais c'est un petit peu comme un certain nombre d'âneries wokistes qu'on a vu pendant des années. C'est que on se dit le temps qu'on a perdu, quoi. Le temps qu'on a perdu avec tout ça... avec toutes ces bêtises et les dégâts que ça fait. Et le truc le plus navrant, je crois, c'est Mertz qui dit « Il y a des choix terribles qui ont été faits, mais ils sont irréversibles. Pourquoi ?» Je veux dire, si tu penses que tu as eu tort de sortir du clair, rouvrez les centrales, reconstruisez les trucs. Je pense pas qu'ils ont tout démoli. Et puis même s'ils ont tout démoli, essayez de, je sais pas, relancer en... Et c'est l'occasion de monter en gamme avec des nouvelles générations. Enfin, je sais pas, faites quelque chose, les mecs. Vous n'allez pas rester aux éoliennes juste parce qu'à un moment vous avez pris cette décision et que vous apercevez que ça n'a plus aucun sens, quoi. Donc ça, c'est vraiment catastrophique. Et ça a quand même un effet, selon moi, qui va prendre un peu de temps à se déployer dans le temps. Dans les mois qui viennent, on va commencer à le voir, à mon sens. C'est que je pense que ça va pour une bonne partie achever le principe des coalitions centristes, des gens du cercle de la raison, de ces choses-là. Parce que jusqu'ici, ces gens-là maintenaient leur place avec leur dénégation, finalement. C'est-à-dire, à partir du moment où ils maintenaient que Il faut sortir nucléaire. Ils restaient sur leur position qui était leur position idiote, mais ils restaient dessus. Donc ils ne se dédisaient pas. Et donc les gens qui tenaient à tout prêt à les croire pouvaient toujours dire mais non, ils ont raison, etc. Là, ils commencent à admettre qu'ils ont littéralement fait de la merde pendant 15 ans. C'est ce qu'a dit von der Leyen. Macron essaie d'expliquer au niveau européen, on n'a pas été bon, comme s'il avait été bon lui au niveau français en supprimant. En fermant Fessenheim, etc., alors que tout le monde disait que c'était de la sottise, hein, à part quelques écolos, ça achève, si vous voulez, en tout cas, je pense que ça va avoir cet effet, la politique, c'est que au moins une partie des gens qui continuent à les soutenir malgré tout vont se détourner d'eux en se disant en fait, ils nous ont menti. On continue à les croire, à leur faire crédit en disant ils doivent savoir ce qu'ils font, mais en fait, non, ils ne savaient pas. Et donc ça, je pense que ça va avoir un effet politique très très profond et probablement qui va s'étendre sur d'autres choses. Et tout ceci arrive au moment quand même où, en même temps, la coalition alternative dont je vous parle depuis les élections européennes se renforce de plus en plus, puisque vous avez eu un durcissement du règlement européen sur le traitement de l'immigration et des capacités de choses qu'on peut faire, notamment les camps à l'extérieur des frontières de l'Union, etc. Et ça, c'est important. Donc ça pousse encore une fois... Malgré les accidents qu'il peut y avoir d'élections régulièrement, vous avez un mouvement de fond qui pousse et qui est celui de ce basculement de l'Union européenne et des divers pays européens dans leur ensemble. Iron Man précise, si pour les centrales nucléaires allemandes, c'est pas juste des activés, mais complètement détruites avec des explosifs. Il les avait détruites avec des explosifs, carrément. Je pensais qu'il les avait démantelées. Ça se détruit avec des explosifs. Bon, une fois qu'ils ont enlevé les combustibles, peut-être. Hein, Mathy, que vous inspirent les derniers rebondissements sur Quentin Durant, Confer Mediapart. Alors, merci pour le don. Confer Mediapart, merci beaucoup. Alors, j'ai suivi ça très vaguement, parce que j'ai du mal à tout suivre en ce moment. Ça devient très compliqué. Je crois qu'ils sont allés sortir des trucs comme quoi il était dans des groupes nazis, effectivement, sur lesquels ils discutaient. Alors, c'est possible, mais il y avait beaucoup d'effets d'entraînement sur ces trucs-là, donc je me méfie toujours un petit peu de quand on sort ce qu'on dit les gens sur des groupes privés. La question, c'est surtout ce que les gens ont fait. Parce que dans les groupes privés de discussion, il y a toujours des effets d'entraînement. Il y a des choses que vous pouvez dire juste pour obtenir une validation de groupe. Ou parce que ça devient des gimmicks et c'est pour avoir un sentiment de cohésion, donc c'est différent. J'ai vu qu'il y a aussi d'autres choses qui sortent, là, semble-t-il, le fait qu'ils faisaient des maraudes, pour le coup, positif, des maraudes au sens, vous savez, les gens qui font du social et qui vont aider les sans-abri dans la rue, etc. Donc tout ceci va sortir au fur et à mesure de la procédure. Il y aura sans doute encore une lutte, ça sera encore un enjeu, je pense, de débat moral entre la gauche et le reste, je pense. Voilà. Donc, à mon avis, ça va continuer de structurer peut-être une partie du débat. Voilà. Je vais pas faire beaucoup plus long parce que mine de rien, y compris en comptant le petit hiatus du début, qu'il faut que je pense à couper derrière. On a fait une heure. Et comme je dois revenir dans 2 jours, je vais essayer de pas fracasser ma voix totalement. Surtout, encore une fois, que si vous appréciez le visionnage du contenu gratuit sur la chaîne, de mon contenu gratuit, vous pouvez aller voir l'émission de ma conférence sur le. Encore une fois, vous allez dans les posts de la chaîne, et je l'ai mis, je crois que c'est le dernier post en date, le lien vers la chaîne YouTube de l'Institut catholique de Vendée. Sinon, c'est ICES, vous tapez. ICES et vous tomberez dessus. Et pour ceux qui l'ont pas vu, je rappelle que la semaine dernière a été publiée ma conversation avec Clément et Christophe de la chaîne Les Bâtisseurs, qu'elle est toujours en ligne, et que donc vous pouvez aussi aller la voir. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. J'espère que j'ai pas relancé le générique. Non. Je vous dis... À très bientôt pour de nouveaux formats. À tout de suite à mes chers souscripteurs dans le live privé des abonnés. Et vous laissez pas faire.